Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, au moins une semaine de plus. Donc nous voici revenus dans les arènes de l'écologie, tous les mercredis soirs de 19h à 20h sur Aligre FM. Alors ce soir, le thème, c'est l'océan et l'iceberg. Alors il y a un petit clin d'œil, parce qu'on va parler de la troisième conférence internationale des Nations Unies sur les océans, avec Ben, qui est un spécialiste du sujet. Et puis, pour ce qui est de l'iceberg, en fait, c'est le titre d'une nouvelle revue que vient de fonder Mathieu Combes, un ami journaliste qui a lancé cette belle revue, mais qui nous en parlera dans un deuxième temps. Tu es bien là, Mathieu ?
Oui, je suis là. Bonjour.
Parfait. Bon, alors, donc, pour commencer, puis comme chaque semaine, ou presque, on va dire, Ben, tu nous racontes ton tour du monde à l'intérieur du périph. Qu'est-ce qui s'est passé dans les différentes instances internationales ? Qu'as-tu vu cette semaine ?
Ah, cette semaine, j'ai voulu seulement me concentrer sur les océans.
Ah.
Et j'ai découvert que quand même Paris était quand même assez loin de cette
de la mer.
Réalité géographique, oui.
Oui, d'accord, ok. Ça fait quelques.
Mais en même temps, bon, on aurait pu dire, voilà, il y a suffisamment d'expressions qui permettent d'aller au-devant. Peut-être qu'il faut revoir certaines vagues, certains courants. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Hein ? Non, moi je voulais insister sur la question de l'océan.
Oui, mais ça, c'est prévu. On va en parler après nos petites chroniques.
Hein. Ah, d'accord. Ah,
on va creuser la question.
Creuser, c'est le cas de le dire. Ouais.
Mais là, sur cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé au niveau international, à part le pape?
Alors, non, la chose la plus intéressante,
oui,
c'est comment se fait-il qu'il y a toujours un traité, le traité de l'Indus, qui survit en dépit des clashs et des guerres qui ont marqué toute cette époque entre l'Inde et le Pakistan.
Voilà.
Alors, l'Inde est en train de couper l'eau au Pakistan, donc ça risque de... Cette histoire risque quand même de mal tourner.
Mais qui l'a signé, ton traité de l'Indus, à part l'Inde et le Pakistan ?
Ah, mais ça a été une des grandes victoires de la diplomatie américaine à une époque où Trump n'était pas encore là.
Il était né ou pas ?
Et il s'agissait vraiment, 1960, d'accord, le traité de l'Indus. Ouais. Donc, ouais, je crois qu'il était né.
Oui,
ce qui était important de pouvoir mettre ensemble et de se rendre compte, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans tout ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie, c'est de se rendre compte que, en dépit des conflits entre les uns et les autres, eh ben, on a continué quand même à préserver ce seul lieu de médiation. Et c'est quelque chose qu'on a reproduit ensuite ailleurs, mais ça a commencé avec l'Indus. Et on ne se rendait pas compte à l'époque jusqu'à quel point c'était quand même un thermomètre des relations internationales. Mais ce traité peut évidemment, à un moment donné, il suffit qu'il y en ait un des acteurs qui se décide de le mettre en suspens, ça risque effectivement...
Mais tu ne m'as toujours pas dit combien de signataires il y avait. Qui ça concerne, à part le Pakistan et l'Inde ? Alors la Chine peut-être un petit peu.
Absolument. Mais
il a été signé où, ce traité, quand même pas à Paris ?
Non, ça a été fait. Ça a été fait notamment avec cette commission internationale qui dépendait de... voyons voir. Il y avait en tout cas cette volonté de réguler
oui, effectivement, il y a des gros enjeux.
Tu es
sur l'Indus, oui, mais bon, mais encore, Ben.
Non, c'est étonnant qu'on a réussi quand même à mettre deux grandes puissances qui, à l'époque, n'étaient pas encore des puissances nucléaires, d'ailleurs, mais on a réussi à les mettre d'accord là-dessus. Et
bon, et ton pronostic, s'il va péter ou pas péter ce traité ?
Alors moi, je ne suis pas pour faire des grands pronostics. Je pense qu'il y a quelque chose entre les deux qui va se jouer. C'est-à-dire que d'une part, si on n'est pas capable, de s'entendre sur au moins ce minimum qui est au fond le minimum vital entre les deux pays, puisque ça concerne leur rivière, donc leur alimentation, donc leur capacité aussi de se nourrir.
Leur survie, quoi.
Leur survie. Donc pour l'instant, on s'est rendu compte, et ça fait partie des mystères de la gestion humaine, c'est que les gens sont plus capables à un moment donné de se mettre d'accord que de...
Il y a d'autres moments. Mais quand tu dis « on », quand tu dis « on », c'est la communauté internationale ou c'est les deux protagonistes ?
C'est les deux protagonistes. C'est entre eux que ça se joue. La commission, elle se trouve alimentée par un traité international. Donc c'est quand même un traité international qui permet de... si tu veux, cette gesticulation. Mais c'est en même temps... il faut bien se rendre compte que...
Est-ce que ça peut changer la face du monde si ce traité est abrogé ou comment on dit quand on tue un traité ?
Non, on le tue pas forcément. On peut... Alors, il y a différentes façons de l'appréhender. La première chose, c'est qu'on peut le laisser tomber. Ou on peut considérer que, même en tant que signataire, on n'a plus les mêmes engagements à l'égard d'eux.
Donc on laisse en désuétude.
Ça, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas une possibilité dans le cas où tu dois gérer à la fois tous les affluents de...
Mais bon, grosso modo, parce qu'on est quand même un peu loin de l'Indus.
Non, on n'est pas très loin.
Dans la Seine et l'Indus, je crois que ça ne se retrouve que dans le grand océan mondial. Ce qui va nous permettre d'introduire tout à l'heure la conversation. Mais avant, naturellement, j'ai quand même le petit agenda de Madame la Ministre, savoir ce qui s'est passé à l'hôtel de Roquecloque. Bon, on va dire que cette semaine, c'est pas l'effervescence, mais on apprend quand même quelques petites choses. Donc, Madame la ministre a eu donc un entretien avec le ministre de l'Environnement de la République arabe d'Égypte, bon, par visioconférence. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Qu'est-ce que a la France de l'environnement et de l'écologie à voir avec celle de l'Égypte ? Bon, c'est sûrement passionnant, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir de temps en temps des petits échos. Madame la ministre s'est entretenue avec le Gilles Vincent, qui est le président d'Amorce. Alors, bon, tout le monde ne connaît pas Amorce, hein, à part pour les pistolets de cow-boy. Moi, j'avais des Amorces pour... pas du tout, ça n'a rien à voir. Bon, là, ça, c'est l'association des collectivités locales qui s'occupent de sujets passionnants et très... les déchets, l'eau, l'assainissement, des choses, et puis l'énergie, il me semble. Donc bon, c'est bien, Madame la Ministre, et aux affaires, on va dire, de l'écologie basique. Ensuite, qui a-t-elle vu ? Elle a vu la directrice générale du CIRAD. Alors le CIRAD, c'est le centre internet de... Je ne sais plus d'ailleurs ce que veut dire exactement CIRAD, mais bon, c'est à Montpellier, c'est le centre d'études de l'agriculture tropicale. Grosso modo, c'était l'ancien INRA des colonies, pour faire simple. Bon, maintenant, c'est pas tout à fait ça. Alors là, c'est pareil, on ne sait pas trop ce dont elles ont pu ce qu'elles ont pu échanger. Mais on posera la question. Et puis après, on s'est intéressé aussi au ministère à la lutte contre la pauvreté avec un entretien avec Anne Rubinstein, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Je ne savais même pas que ça existait au sein du gouvernement. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais bon, on est heureux d'apprendre qu'il y a ce genre de délégation.
Et des manifestations de bas bruit.
Voilà. Ouais. Et on ira se rendre. On ira creuser aussi le sujet. Et puis, il y a tout de même une réunion du comité France-Océan, et là ça nous amène bientôt à notre sujet, en vue de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui va se tenir en juin à Nice et dont on va commencer à traiter avant d'aborder, de découvrir la magnifique revue L'Iceberg de notre ami Mathieu Combes. Après, bon, on est passé mardi à une matinale à Public Sénat, bah, c'est bien, hein. Lancement de l'Observatoire des forêts des instituts de géographie nationale. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais depuis, j'ai toujours l'impression qu'on crée quelque chose autour des forêts, des observatoires. Ça fait 20 ans, on nous sort toujours un machin, comme si la forêt était une nouveauté. L'ancêtre de l'ONF date quand même de 1452, si j'ai bonne mémoire.
Et pourquoi on essaie de supprimer l'ONF ?
Alors, on ne le supprime pas, on le remanie, on le rebidouille, on supprime des postes, semble-t-il, où on cherche à limiter le côté fonctionnaire étatique de l'ONF. Et pendant ce temps-là, se multiplient, semble-t-il, les coupes rases illégales, des pilleurs de bois. Alors ça, c'est pareil. Ça, par contre, c'est nouveau. Pour le coup, c'est nouveau. Quand j'étais rédacteur chef de Bois Forêt Info, on n'avait jamais entendu parler de voleurs de bois. Maintenant, c'est monnaie courante. On en voit à peu près tous les 15 jours sur les posts Internet. Donc voilà. Alors ensuite, madame, elle s'est entretenue avec Sophie Hermans, la ministre du Climat, de la Croissance Verte, deuxième vice-première ministre du Royaume-Uni. Du Royaume des Pays-Bas. Les Pays-Bas, les Néerlandais, non, faut pas, surtout pas dire les Hollandais, hein, Ben, c'est ça que toi qui as quelques antécédents bataves.
On ne dit pas breton pour français.
Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'était le Conseil des ministres, comme d'habitude. On a commémoré l'armistice du 8 mai au sein de l'hôtel de Roquechlore. C'est vrai que ça aurait manqué. Après un entretien avec Madame Martha Sidrac, qui est une sénatrice LR des Yvelines, que je ne connaissais pas encore. Des choses. Et puis, naturellement, fin d'après-midi, ça doit à peine se terminer, une réunion avec les acteurs de la pêche chalutière en Méditerranée sur le plan des gestions de West Méditerranée par visioconférence. Et puis vendredi, jeudi, ça doit être repos. Entretien, vendredi, ce sera un entretien avec Marc Papinutti, président de la Commission nationale du débat public. Alors ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir remettre ces sujets-là à l'ordre du jour. On en reparlera dans la planification écologique. Ça sera un de nos prochains sujets. Voilà, on va pouvoir...
Il y avait quand même juste sur le...
Avant le jingle, vas-y, Ben.
Sur la ministre d'Égypte.
Oui.
Je pense que ça a à voir avec le Nil et la gestion du Nil. La France est un des observateurs qui s'est beaucoup manifesté. Dans la commission de
négociation. Alors toi, c'est l'Indus, et Madame la Ministre, c'est le Nil.
C'est le Nil.
D'accord, ok. Bon, c'est parfait tout ça. La planète va être sauvée.
Bien sûr.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, nous voilà donc dans les arènes de l'écologie, avec Mathieu Combes et puis Ben Kramer, qui va, alors voilà pour le coup, qui va aussi jouer le rôle d'invité. Après avoir fait celui de chroniqueur, il va nous parler de la conférence des océans à Nice, donc un sujet, je crois que tu as pris ton billet pour y assister.
Je me suis carrément jeté à l'eau, c'est ça que tu voulais dire.
Voilà. Ouais. Alors raconte-nous tout, qu'est-ce que c'est que cette conférence ? Alors je sais que c'est la troisième.
Oui, mais ça fait partie de la petite chronologie. Il faut regarder la chronologie de façon beaucoup plus large.
Dis-nous tout, cher professeur.
Non, au commencement était l'eau.
Donc
déjà, vous avez là un petit aquarium devant vous et on se rend compte que toutes les questions qui ont à voir avec les océans, qui ont à voir avec les enjeux maritimes, ça a été plus ou moins un angle mort des négociations écologiques internationales ces 50 dernières années. C'est assez hallucinant de voir ça.
Pourtant, ça fait que les deux tiers de la planète.
Exactement. C'est 72% de la planète. On aurait pu croire qu'il y avait ce qu'il fallait comme mobilisation, comme concentration, comme énergie. Mais non, on a attendu ces dernières années, et c'est vraiment très récent, que les différentes grandes agences, même onusiennes, ont commencé à s'intéresser à ça. Mais c'est vrai, c'est pas seulement vrai pour les océans, c'est vrai même pour l'eau, le droit à l'eau, par exemple. Alors, si on regarde ça de plus près, c'est vrai que ce sont des vrais enjeux d'un point de vue scientifique. Et ça, c'est quelque chose dont on aurait pu d'ailleurs s'en inspirer à partir de tout ce qu'on sait de Jules Verne et compagnie. Hein ?
Oui. Alors, c'est vrai que la mer était un grand champ d'exploration depuis, on va dire, 1492, pour faire simple.
On a essayé, par exemple,
depuis... Le début de la mondialisation, hein, d'ailleurs.
À partir de 1945, on a commencé à essayer de générer des tsunamis.
Ah bon ?
Oui. Ça, c'est les Américains, hein, oui. Qui étaient très très forts pour mettre ça. Et ça a été révélé je crois, c'est la BBC, en 99, donc...
Hier.
Non mais quand même, il a fallu 40 ans pour qu'on puisse apprendre quel était ce projet qui s'appelait le projet SEAL, S-E-A-L, et qui essayait de faire de provoquer des explosions en Nouvelle-Zélande, dans la baie des baleines.
Une arme de destruction massive.
Absolument, absolument. Oui, c'était le début des expérimentations de guerre météo.
Bon, bah, oui, nous en dirait tant.
Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la question des océans, c'est en même temps un sujet qui est très à la mode et qui le devient récemment. Le projet, là, j'ai écouté à la radio, le projet Tara, océan pour les mômes, c'est quelque chose qui vient, quoi, c'est plus... Alors, tout ce qui est océanographie, ça a eu un grand, non, il se passe pas, un grand boom dans les années 70, 80... Vous avez la question énergétique. La question énergétique, elle est fondamentale, puisque aujourd'hui...
Est-ce que les océans représentent... Donc, ce qu'on est en train de nous dire,
Moi, je te donne les différentes dimensions.
Voilà. Espèce de Far West mondial.
Alors,
c'est un peu un espace sans beaucoup de règles, et on est en train d'essayer de...
Je vois là tes exigences.
Oui, à un moment ou à un autre, il faut y aller
au niveau politique, qui gouverne l'océan ? C'est ça ta question.
Non, c'est pas ça ma question. C'est est-ce que c'est une zone de non-droit, oui ou non ?
C'est une zone de non-droit.
Voilà.
Une zone de non-droit depuis que...
Et donc, si c'est le non-droit, on est encore dans l'espace des corsaires et des pirates.
Absolument. Et on a de plus en plus de piratage. Et du piratage qui est même plus ou moins légal, parce que certains pays qui n'ont pas signé la convention de Montebello sur, justement...
Donc si on est dans un espace de piraterie, de non-droit...
Même sans piraterie.
Alors on a entendu Trump qui voulait aller ramasser les nodules, tu nous en as parlé déjà la semaine dernière. Donc là, effectivement, avec des conséquences faramineuses sur les milieux marins, sans qu'on sache quelles pourraient être les conséquences... Mais par contre, il y a d'autres formes de piraterie ou de surexploitation bien connues, à commencer par la surpêche.
Alors justement, ça c'est intéressant parce que si on prend la volonté qui est affirmée aujourd'hui aussi par l'ONU, mais par toutes les ONG, de protéger les océans, les mers et les océans, il y a la question qui est-ce qui provoque le plus de dégâts. Et la pêche est effectivement l'un des vrais problèmes. Le problème du plastique...
En est un autre. Je crois que Mathieu, tu connais le plastique.
Mais en fait, c'est même pas...
N'hésite pas d'ailleurs à prendre la parole.
C'est peut-être même pas un autre. C'est peut-être que d'ici très peu de temps, il y aura plus de plastique que de poissons.
Oui.
C'est quand même intéressant.
Oui.
Alors, en termes de dégâts... Il y a aussi tout ce qui est prospective au niveau pétrolier. Et là, ça provoque aussi beaucoup de dégâts, parce qu'au fond, on est en train d'utiliser les fonds marins, on est en train d'essayer de bientôt de les labourer comme on a fait ailleurs. Là, il y a un vrai problème pour tout ce qui est les fonds marins. Et les fonds marins, on est en train en même temps de nous dire « oui, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il nous faut extraire un maximum de ces fameux minerais qui sont supposés nous sauver de... La nouvelle révolution.
Mais qui décide qu'on a absolument besoin de nouvelles richesses, de nouveaux... est-ce qu'il y a un consensus ? Est-ce qu'il y a,
pas du tout. Il n'y a pas de consensus.
Chez les scientifiques, ils essayent de définir un paradigme, une espèce de base commune pour se dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Aujourd'hui, sur cette question d'exploitation des océans, il n'y a absolument rien. C'est la loi du plus fort. C'est quoi la logique ?
Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte. L'un, c'est que vous avez un certain nombre d'États qui considèrent que Res Nullus doit rester un domaine plus ou moins... l'équivalent de ce qu'on a réussi à faire avec l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire un patrimoine mondial de l'humanité.
Oui, à coup de constellations, sans trop se préoccuper des déchets et autres.
Non, mais c'est quand même un concept qui a été plus ou moins soutenu et défendu par une grande partie du monde qui se disait, bon, que ce soit pour l'Antarctique... ou que ce soit pour d'autres régions du monde, on considérait que c'était patrimoine mondial de l'humanité.
D'accord.
Comme la Lune, par exemple. D'ailleurs, il y a un traité qui est supposé, d'ailleurs, qui date de 67...
Du patrimoine de l'humanité.
Et qui devrait être quelque chose comme certains...
Mais on n'est pas fichu d'appliquer ce concept aux océans.
Non, pas non plus, à la limite. On devrait dire pas non plus. Parce qu'avec la Lune, c'est terminé... Avec tous les lieux comme les différentes satellites, on est aujourd'hui en train de dire, depuis d'ailleurs le Obama Act de l'époque, on est en train de dire qu'après tout, ces ressources, si quelqu'un est capable d'aller les chercher, ils sont à vous. Ce qui est très western, au fond. Et c'est exactement ce que veut faire Trump aussi par rapport aux richesses, entre guillemets, qu'on peut trouver dans les fonds marins, en train de dire, écoutez, si certains d'entre vous...
Oui, mais les brigands, ils n'ont pas attendu Trump pour aller saccager les ressources halieutiques, aller...
Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de la contradiction, parce qu'en même temps, on dit aujourd'hui, mon Dieu, il faut absolument préserver les océans, et en même temps, on considère depuis toujours que c'est un dépotoir magnifique.
Oui.
On a utilisé... je veux dire, la mer Baltique, c'est un dépotoir de tous les munitions chimiques de la Deuxième Guerre mondiale. En Méditerranée, il y a en termes de pollution, on s'en rend pas compte. Mais prenons ce qu'on a dit tout à l'heure sur les déchets. Sur les déchets, ça représente, on a calculé, juste pour la Méditerranée, à peu près un camion par minute. Qui est déversé dans la Méditerranée.
Encore ou historiquement ?
Non,
aujourd'hui.
Aujourd'hui.
À l'heure où on parle. D'accord. Bon, et alors justement, cette conférence, ça va décider...
Alors, cette conférence...
C'est quoi les enjeux de cette conférence ? Alors, on a la troisième du nom, hein, puisque la première, c'était 2017, si j'ai bien vu mes fiches. La deuxième, c'était 2022, et la troisième, c'est...
Oui, on pourrait en avoir plein.
Oui, mais bon, là c'est factuel, quoi.
Non, mais qu'est-ce que c'est que le sauvetage de cette ressource ? Il faut déjà que les gens se mettent d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'hydrosphère, comment est-ce qu'on peut préserver cet environnement-là, tout en tenant compte du fait que, un, c'est un champ de bataille, mais ça, j'insiste pas, parce que tout le monde sait que...
Non, c'était dada, mais bon...
bon. Deux, c'est quand même d'un point de vue économique, c'est quelque chose d'énorme.
Oui.
C'est probablement, pour ne prendre que la France, c'est quand même un secteur qui représente, je sais pas, entre 360 000 et 400 000 personnes qui bossent dans ce domaine.
Oui, c'est pas non plus. On est quand même 68 millions. C'est pas non plus 20% du PIB français. Je suis pas certain que ce soit si énorme que ça, le business maritime. Est-ce qu'on le connaît d'ailleurs ?
Déjà, ce business, ça, c'est d'abord c'est des flux. Oui. C'est du transport.
Ça, c'est clair.
Et dans le transport, tu peux même inclure tout ce qui est télécommunications, câbles sous-marins et autres choses. Tout ça, ça fait... Plus tu as la question énergétique, pure, plus tu as tous les minerais. Tous les minerais qu'on va essayer de pomper si on y arrive.
Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est un peu la face cachée du monde qui est dans l'océan.
Ah, c'est vraiment, c'est probablement ce qui va nous permettre de nous sauver, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire que, vu que la mer, on l'a tellement salopée que...
Saccagée.
Qu'à la limite, on ne va plus pouvoir respirer, mais le contraire est vrai aussi.
Et donc, l'objectif de cette conférence, c'est de quoi ? C'est de mettre en place des règles, de trouver un consensus
Alors,
c'est quoi ? Alors, je sais qu'il va y avoir plein de colloques, et puis après, il va y avoir... Mais c'est quoi ? C'est un genre de...
Il y a le côté kermesse.
Oui.
Il y a un côté kermesse.
C'est un peu comme les COP pour le climat ? Ça va être quoi, alors ?
Non, on réussit... Non, on pourrait faire une COP si on avait réussi à avoir un traité... qui est capable de, sur lesquels les différents États signataires pourraient se mettre d'accord sur les protocoles, machin. On n'a même pas ça encore. Et c'est là que Trump a été très malin, c'est qu'au fond, au moment même où on était en train de négocier un éventuel code minier pour les fonds, le shérif Trump s'y est pris. Et nous a pris un peu par surprise, puisqu'il nous a pris de vitesse, absolument. Ça, c'est... Il y a toute la partie de sauvetage, c'est de dire, est-ce qu'on est capable au moins de se mettre d'accord avec les ONG ou sans les ONG, peu importe, mais de se mettre d'accord sur la limitation de tout ce qui est plastique. Ça, c'est probablement quelque chose auquel on risque d'aboutir. C'est même une convention que les uns et les autres devront signer.
Donc ça pourrait déboucher sur le lancement de plusieurs conventions.
Ouais, ouais.
Sur le plastique, tu as l'air de dire que ça pourrait se voir.
Celle sur la démilitarisation, non.
Celle sur la pêche, la surpêche.
Alors sur la surpêche, là...
La pêche industrielle monstrueuse.
Ça, c'est un grand problème.
C'est probablement
quelque chose qu'on ne va pas réussir à résoudre. Mais il y en a un troisième sur lequel il faut tenir compte, c'est... c'est celui qui a à voir avec les fonds marins. Parce qu'il y a une instance internationale onusienne qui s'appelle l'international, l'IAFM, qui est l'association internationale pour les fonds marins. Ça, c'est quelque chose qui est onusien, c'est quelque chose qui existe.
Pour tous nos citoyens, comment on peut se saisir de ces sujets-là ? Alors déjà, peut-être commencer par comprendre la complexité, avoir un petit peu un inventaire de tous ces enjeux.
Oui, absolument.
Après, pourquoi cette troisième, elle est en France ? Bon, c'est vrai qu'on a du littoral, c'est vrai qu'on est le deuxième espace maritime mondial, semble-t-il.
Ça joue aussi.
Oui.
Ça joue aussi. Et puis Macron a décidé...
Avec le Costa Rica pour l'organiser.
Ça, c'était malin. Moi, je pense que c'était très malin, parce que c'est en même temps un pays qui...
affiche pas mal de choses sur l'environnement aussi.
Absolument. C'est vraiment...
Une belle vitrine,
fait partie de son... Oui.
Ça fait une tête de gondole, sympa. Quoi.
Ça fait... oui, ça permet de dire que...
Ça
s'est décidé il y a pas longtemps.
D'accord. Donc,
il y a pas longtemps.
Donc effectivement, c'était nos amis du gouvernement actuel qui ont porté candidat pour faire ça. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas se planter. En tout cas, on a vu que Madame la ministre s'en était beaucoup occupée. Elle a eu beaucoup de lobbies maritimes. En tout cas, si on faisait la comptabilité, combien de lobbies d'intérêts maritimes et puis combien d'ONG défenseurs de l'environnement, je crois que le score est terrible. Hein. On est très loin du match nul. Hein. Bon, bah écoutez... Hein. On va voir ce qui va en sortir, mais donc tu y vas le début juin, tu nous ramènes des trucs bien pointus, bien précis. Hein. On veut tout rencontre tous les auditeurs des arènes de l'écologie sur Aligre FM t'attendent, hein, Ben. Hein. Tu as une très très lourde responsabilité. Hein.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, naturellement, vous avez tous reconnu Oncle Remus de Frank Zappa, enregistré en 1974 sur l'album Apostrophe, une programmation que nous devons à notre ami Olivier. Donc, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie avec Mathieu Combes, qui a deux, trois choses à nous dire bientôt sur les océans. Mais Ben, tu avais un petit regret, tu voulais compléter encore ta...
Ouais, non, mais je
veux... Mais tu as trois minutes, hein, pas
j'ai
plus.
J'ai trois minutes,
hein.
Non, ouais. Ça suffit.
Mais commence.
Il y a dans le menu du sommet à Nice, on va beaucoup parler. Je l'ai déjà mentionné. C'est sur les pollutions plastiques. C'est sur les fonds marins. Mais il y a un autre domaine que j'ai un peu zappé et qu'il faut pas zapper. C'est celui des aires marines protégées. Ça, c'est le grand dada de beaucoup d'ONG aujourd'hui, c'est de dire il faut arriver à ce que on accroisse ces superficies.
Il y a cet objectif de 30%, mais quand on parle d'air protégé, c'est toujours pareil, c'est comme sur Terre, hein, il y a la problématique des niveaux de protection.
Voilà,
parce qu'on peut avoir beaucoup de surfaces protégées, dites protégées, mais avec des niveaux de protection tout à fait différents. Je crois qu'il y en a 4-5, j'ai oublié mes...
Mes fiches.
Avant, je savais ça, mais bon, maintenant, j'ai oublié, c'est l'âge. Mais donc, oui, la question sur la mer, c'est on peut faire une protection light et une protection intégrale.
Absolument, quoi. Absolument.
Et je crois qu'effectivement...
Et qui est-ce qui va pouvoir surveiller que...
Il y a surveiller, il y a d'abord définir les règles, et voilà. puis les
donc
imposer.
Donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter à une conférence à Nice. Ça, c'est sûr.
Non, bah,
je pense
bien,
que ça fait partie d'un nouveau processus où on essaie aujourd'hui de...
On ne va pas pouvoir gagner la bataille dont la guerre en une seule bataille.
Non.
Il faut s'apprêter à beaucoup de combats. Mais il y a effectivement... Bah Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose justement sur ces sujets que tu as connus aussi ou que tu connais, hein, avant qu'on aborde naturellement ta revue qui n'est pas si éloignée que ça de la thématique malgré tout.
Oui, je voulais juste rajouter par rapport au sommet à Nice. Effectivement, la question des aires marines protégées va être a priori vraiment à l'agenda vu qu'en plus on a eu une étude récente de l'ONG Bloom qui dénonçait que les aires marines protégées... En réalité, protégeait moins de, enfin, il y avait moins de 1% des aires marines protégées qui étaient réellement protégées.
Oui, c'était de la petite protection.
Protection.
D'affichage.
Et au niveau des négociations de la pollution plastique, on devait avoir un accord international en 2024 qui n'a pas abouti. Donc, il y a encore des négociations tout au long de l'année 2025.
Exact.
Et certainement qu'à Nice, il y aura des discussions autour de ça.
Ok. Alors bon, bah écoute, voilà la transition. Tu vas pouvoir nous commencer à nous raconter qui tu es, Mathieu. Alors, j'ai vu sur ta fiche sur Internet que tu avais commencé par être ingénieur chimiste. C'est bien vrai ou c'est une fake news?
Non, c'est vrai.
Carrément, et tu l'avoues.
Ouais, t'as vu. En fait, j'ai fait des études de chimie et j'ai commencé par être ingénieur chimiste en chimie de l'environnement, donc ingénieur de recherche. Et je travaillais au CEMAGREF, donc c'était un centre de recherche public.
Ah, CEMAGREF.
Voilà, donc ça
Anthony,
va. C'était Anthony, exactement. Ouais. Et donc, je travaillais dans l'écotoxicologie. Je faisais des recherches
CEMAGREF,
sur la
pollution.
CEMAGREF,
pour ceux qui ne savent pas, c'était le centre d'études du machinisme agricole. Des eaux et des forêts. Voilà, ça nous ramène à un de mes dadas, chacun les siens. Bon, donc, tu t'es bossé au CEMAGREF en tant que chimiste environnement. Alors, c'est quoi un chimiste environnement?
Alors, c'est un chimiste qui fait des analyses pour mesurer... Enfin, moi, dans mon cas, je mesurais les micropolluants dans les rivières.
D'accord.
Donc, c'était des études sur la quantité de métaux et de pesticides dans les rivières.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, Mathieu, excuse-nous. voilà, t'as vu, donc on a des jingles.
C'est cool, hein. C'est cool, hein.
Super sympa. Oui, alors donc tu mesurais, tu mesurais les pollutions pour faire simple.
Oui.
Bon, et qu'est-ce qui t'a amené à imprimer un journal? T'étais passé, je crois, t'avais créé déjà une revue en ligne qui s'appelait Natura Science, ou qui s'appelle peut-être toujours.
Qui s'appelle toujours.
On peut s'abonner, c'est ça?
Oui. On peut s'abonner et alors pour reprendre l'histoire depuis le début, pendant mes études, donc j'ai créé un blog qui s'appelait Natura Science, qui était un blog consacré justement aux recherches scientifiques sur l'écologie. L'idée, c'est que comme j'étais en parallèle, ingénieur chimiste et que je faisais de la biblio, c'est-à-dire que je lisais beaucoup d'articles scientifiques, je me rendais compte que dans le grand public, on se posait des questions.
Il
n'y avait pas de réponse, mais la communauté scientifique faisait des recherches et avait des réponses. Donc l'idée, c'était de faire la vulgarisation sur des sujets, des passerelles, sur des sujets en lien avec l'écologie. Donc principalement la pollution au départ, mais après je me suis aussi intéressé à l'énergie, à l'agriculture, à l'aménagement, et en fait toute la grande sphère des grands défis écologiques.
Bah,
voilà.
On
Quand on rentre dedans...
Ouais, on n'en sort plus.
On n'en sort plus, voilà, c'est ça. Et parmi justement ces grandes questions, je me suis intéressé à la pollution plastique. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelait Survivre au péril plastique, qui était.
Qui s'appelait
Survivre au péril plastique. Qui était une enquête de 2 ans justement pour comprendre d'où venait cette pollution et quelles étaient les solutions aux différentes échelles, que ce soit individuelle, mais aussi industrielle et politique, pour réduire cette pollution plastique et chercher à la combattre. Et tout ça m'amène à l'iceberg. Donc c'est une revue que j'ai cofondée avec Shaima Deb, donc qui est ma collègue aussi chez Natura Science. Donc moi je suis directeur de la publication, elle en est la rédactrice en chef. Et on avait eu cette idée, on était sur Internet et on s'est dit, il nous manque un truc quand même. On a envie d'aller plus loin puisque Natura Science, on est vraiment sur les sujets scientifiques. On fait des interviews de chercheurs, on parle d'études scientifiques, mais il nous manquait aussi l'aspect avec les militants. l'aspect politique. Donc on a commencé à l'aborder un peu sur Nature et Science, mais on s'est dit, pour mettre ça en perspective, on aimerait bien être sur un format papier.
Et donc, alors attends, c'est fou ça, des jeunes qui font du papier.
Et ouais.
C'est dingue ça. Je croyais que ça n'existait plus, moi.
Mais ça revient, parce qu'en fait...
Parle-nous ça un peu, parce que là, tu vas nous donner une bouffée d'oxygène. Ouais. Nous qui sommes nés dans le papier, qui avons gratté, noirci les papiers à n'en plus finir, toute notre jeunesse, nous. Hein.
Les jeunes, quand même, commencent à se rendre compte qu'ils sont enfermés dans leurs algorithmes, que ce soit sur les réseaux sociaux, principalement sur les réseaux. En fait, ils ont toujours les mêmes infos. Et quand ils regardent... Quand ils s'intéressent aux questions écologiques, ils voient que leur petite sphère écologique est plus ils s'intéressent, plus ça devient anxiogène. Et il y a un moment où ils se disent « Ah non, mais là, j'en peux plus. »
C'est le phénomène, phénomène d'entonnoir.
C'est un entonnoir, voilà. Plus on s'informe, plus on est très spécifique. Et c'est comme ça que les militants ils vont avoir l'impression que on comprend pas pourquoi ça n'évolue pas, puisque il y a des manifestations partout, tous les week-ends, et les politiques ne les écoutent pas. Les scientifiques, eux, ils vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas entendus, ou ils vont avoir beaucoup d'informations scientifiques, mais avoir l'impression que les citoyens ne prennent pas en considération leurs études et que rien ne bouge au final et qu'on va tout droit vers la catastrophe. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va essayer de croiser les regards, les analyses de tout le monde pour justement donner un peu d'espoir et sortir de cette image anxiogène et cette approche par silo en prenant une thématique par numéro et en se disant on va faire parler des scientifiques, des militants, des élus locaux, des entreprises potentiellement qui font des choses pour justement voir qu'il y a plein de gens qui se bougent.
Donc tu as réinventé les magazines, les revues, c'est génial quoi.
Mais ce que disent parfois l'association des journalistes qui s'occupe justement des questions scientifiques,
La JSPI,
exactement. Ils disent que c'est au fond compliqué en même temps, cette position que vous essayez de défendre. Parce que vous essayez d'être tout sauf des militants.
Exactement.
Vous essayez quand même d'armer la connaissance et d'en faire quelque chose sans être dans cette espèce de...
C'est ça, donc on continue à faire du journalisme, on fait parler les scientifiques. Donc, on explique leur point de vue, on explique leurs recherches, on explique comment ils travaillent, et on fait parler les militants pour montrer également, eux, leur point de vue, leur combat, et pourquoi ils agissent comme ça. Et en parallèle de la revue, on a lancé justement, pendant notre campagne de lancement, qui était le mois de mars et avril, donc c'est tout frais, on a aussi fait des capsules vidéo avec des personnes qu'on... présente comme inspirante. En fait, c'est des personnes qui se bougent, qui agissent concrètement sur l'écologie.
Les inspirantes.
On appelle ça les icebreakers. Comme ça, on a fait des interviews avec des scientifiques, des militants, des artistes, pour montrer qu'il y avait, et des entrepreneurs, pour montrer qu'il y avait plusieurs facettes à l'engagement écologique et justement essayer de montrer une approche...
Briser
la glace. Et d'avoir une approche collective et pas essayer de renvoyer les uns les autres, justement, les écolos. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a les marchands de doute, on les connaît, les entreprises, il y a des gros lobbies qui, elles, sont très bien armées et avancent très très fort. Et en fait, dans l'écologie, on est un peu tous à se regarder les yeux dans les yeux ou à se renvoyer les uns les autres. C'est pas le bon courant de pensée. Alors lui, il est un peu trop libéral. Lui, il est trop militant. Lui, il est trop activiste.
Alors pourquoi iceberg ?
Et pourquoi l'iceberg, justement ? C'est pour essayer d'aller plus loin que cette vision un peu trop émergée. Et essayer de creuser les sujets
donc,
et aller voir sous la glace.
Voilà. C'est nous amener à regarder la partie
émergée. Voilà, c'est toujours là. Émerger, c'est au-dessus, et émerger, c'est en dessous.
Et quand on veut le dire, on se plante à chaque fois. Voilà. Mais bon, donc, ça, grosso modo, tu nous dis qu'il y a plein de choses qui sont cachées, donc qui sont pas forcément cachées, mais sous la ligne de vue, quoi. Sous l'horizon, quoi.
Comme pour l'iceberg.
Ok, j'ai pigé.
C'est pour ça que ça s'appelle l'iceberg.
J'ai pigé. Bon, je mets mon scaphandre et je vais aller. Et je vais aller explorer.
Non, c'est bien comme titre, moi je trouve. Je trouve que c'est très imagé. C'est d'un point de vue.
Bye.
Eh bien, vous venez d'écouter Babel West, c'est du rock du Maroc avec des sonorités bretonnantes, m'a-t-on dit, une espèce de mariage musical qu'on peut entendre en live le 21 mai au Café de la Danse à Paris, à côté de Bastille. Bon, voilà, donc on renvoie aussi la balle. Le but du jeu dans les arènes de l'écologie, c'est aussi de mettre tout un peu en réseau. C'est ça qui est sympa. Et d'ailleurs aussi, effectivement, toucher les choses, c'est le but de notre vision de l'écologie. Il faut que ce soit une écologie préhensible. Eh bien là, on a une revue entre les mains. Donc une revue préhensible avec un joli papier dufté. Je ne sais pas, c'est quoi comme papier
Alors, parce que... le nom, il a un nom.
Ah oui, papier. Oui, non, parce que...
Et, alors, c'est du papier 120 grammes, et c'est oui. du... Alors, c'est du Munkan Polar pour la couverture, et c'est du Soporset Premium pour l'intérieur.
D'accord, oui, donc c'est pas du brillant, c'est pas du comment dire...
C'est du papier mal.
Du satiné ou du couché, il est sympa ton papier, moi ça me plaît. Alors justement, toi qui étais un enfant du web, le fait de redécouvrir le plaisir de la matière, non, plaisir, c'est moi qui dis plaisir, je te mets déjà sur la voie, hein. Mais si t'éprouves pas de plaisir en tenant l'objet, tu me le diras, mais bon, qu'en est-il?
Alors oui, heureusement. Alors, ce que je disais aussi, c'est que l'idée de faire un papier, justement, c'était de pouvoir creuser les sujets et surtout aller au fond des choses, mais avoir tout au même endroit. Quand on est sur le web, faut cliquer, faire des dossiers. En fait, on peut pas faire un cheminement de pensée. Nous, la revue, chaque numéro, on le pense comme un cheminement de pensée de l'émergé à l'immergé. Et surtout, un cheminement de pensée du début à la fin, donc sur les 136 pages. On peut le lire, si on veut,
en
picorant. Mais moi, j'invite quand même à lire pour cheminer la pensée progressivement dans l'ordre, de façon à pouvoir faire les liens entre les différents articles. Nope. On va parler d'Antarctique à un endroit, mais on va parler du Groenland, et on va faire des ponts en fait, entre les différents lieux.
Donc ce que tu nous dis, c'est que le papier, par rapport au web, il offre une espèce d'architecture, de structure qui est peut-être utile. Et tu nous disais justement, en aparté tout à l'heure, que le titre avait été aussi choisi, parce que, fait référence naturellement à la glace, pour un peu apaiser le monde, ou du moins l'ambiance, que de faire descendre la température. C'est ça l'idée d'iceberg aussi.
Il y a un peu cette idée, parce qu'effectivement, dans les milieux militants, ils parlent beaucoup d'être plus chaud que le climat, et 1, et 2, et 3 degrés. Et l'idée, nous, c'est d'essayer justement de faire baisser un peu la température. Déjà, on peut se dire...
Prendre du recul.
Mettre un coup de frais sur le climat, ce serait bien, hein, de ne pas avoir trop de degrés de réchauffement climatique, et de pouvoir prendre justement du recul, le temps pour soi, et forcément, le format papier invite à sortir des écrans, on pose son téléphone, on s'installe dans le train ou dans son canapé, ou dehors quand il fait beau, et on peut prendre le temps pour soi de relire une revue et de s'informer différemment.
Eh bien, écoute, tout à fait. Alors là, moi, c'est un grand plaisir de voir que les jeunes peuvent croire au papier, parce qu'on avait marre de passer pour des ringards, hein, Ben. Bon, toi, tu n'étais jamais ringard.
Mais icebreaking, dans le monde universitaire, c'est aussi casser la glace. Et donc, on l'utilise, par exemple, au début des cours, pour en... C'est une sorte de formule qu'on utilise pour, par exemple, question-réponse.
D'accord, pour briser la glace, mais là...
Briser la glace. Alors là,
au contraire, c'est l'inverse, c'est pour casser le côté figé.
Oui, mais en même temps, c'est un peu pareil parce qu'il y a l'idée de détente.
D'accord.
Il y a l'idée de détente et de convivialité en disant, bon...
On
peut se parler. Voilà.
Il y a l'idée, effectivement, aussi de casser la glace, de rapprocher les gens.
Voilà.
Parce qu'en cassant la glace, en fait, il y a aussi dans les icebreakers, c'est dans les formations ou pour que quand il y a des gens qui ne se connaissent pas, les petits jeux, vous savez, les portraits chinois, etc. Et ben là, ça va être de casser la glace et de faire en sorte que les gens se reparlent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on souffre de cette
pandémie. Pour parler, donc, j'ai pas encore lu l'iceberg, mais vous faites quoi ? C'est des portraits, c'est des grandes interviews, c'est des enquêtes, c'est...
Bah, il y a de tout ça. Il y a de l'enquête, il y a des reportages, des longs reportages en France et à l'étranger. Il y a des analyses économiques, géopolitiques, des analyses sur l'adaptation. On a un portfolio au Brésil sur ce numéro. On a de la BD aussi faite par Damien Roudot, qui est un auteur de BD français qui fait des super choses, dont Ovive et Texaco, si vous connaissez. Et donc, il nous a fait une BD dédiée pour ce numéro.
D'accord. Alors, donc là, ce numéro, le thème, c'est des glaces aux vagues. Donc, c'est effectivement, on est dans l'univers marin. Donc, on est relativement dans le prolongement de la thématique des océans qu'on abordait tout à l'heure. On laisse découvrir aux auditeurs le plaisir d'aller le trouver en kiosque. Tu m'as dit que tu faisais ce pari fou d'aller pour un premier numéro, pour une petite boîte d'édition quand même. Vous payez le luxe d'aller en kiosque.
On fait le pari d'aller en kiosque et maison de la presse, relais, partout en France.
Vous l'avez tiré à combien d'exemplaires?
On l'a tiré à 15 000 exemplaires.
D'accord. Bon, tu vas pas. Voilà. C'est pas dans tous les points presse non plus, quand même.
C'est pas dans tous, mais c'est dans beaucoup. En gros, quel que soit l'endroit où on habite, on peut en trouver un pas loin de chez soi.
D'accord. Mais bon, il y a aussi la solution de le commander en ligne.
Oui, sur l'iceberg.fr, tout simplement, voilà. Sans apostrophe.
Ok. J'ai vu, t'as mis au point des formules avec le livre, plus des...
On a fait des stickers, un panorama des grands défis écologiques, en collaboration avec l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est justement c'est un poster qui présente les grands défis écologiques. On a fait un travail pour essayer de voir la part d'antenne des grands défis écologiques dans les programmes audiovisuels français.
Et tu cherches des pigistes ou pas ?
Eh bien, on cherche des pigistes. Alors, pour le numéro 2, on a quasiment bouclé tous les pigistes,
C'est quoi le thème du numéro 2 ?
Alors, pour l'instant, on ne le dit pas, mais il sort en juillet, en tout cas, et ce sera en lien avec... Ce sera bien une thématique estivale, on sera très content de le lire pendant les vacances.
Et le numéro 3, ça peut être quoi comme thématique ?
Numéro 3 sera...
On ne te dira pas.
Ah, on ne te dira pas non plus.
On ne te dira pas non plus. C'est le silence.
Est-ce que des sujets qu'on traite dans les arènes de l'écologie pourraient un jour avoir leur place à l'iceberg ? On a traité pas mal de fois la question de la biodiversité et de l'agriculture. Oui. C'est quelque chose qui nous motive, les pesticides, alors ça va être renvoyé à ton passé de chimiste. Voilà les sujets qu'on traite.
Tous les sujets qui sont en lien avec l'agriculture, l'énergie, la transition juste, la biodiversité, l'aménagement du territoire, ça a vocation un jour ou l'autre à être traité dans l'iceberg.
Bon, bah écoute, tu vas revenir.
Ça, c'est une réponse diplomatique qui veut dire mon petit. Interlocuteur, je ne t'en dis pas plus. Moi, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que ça représente comme boulot. Parce que quand on voit ça, on imagine quand même qu'il y a énormément
de gens
qui ont travaillé. Il faut les trouver. Il faut les trouver, ces experts. Bon, peut-être pour le premier numéro, ils ne se manifestent pas... Ils ne demandent pas d'être payés. C'est possible.
Ils sont payés.
Non, il n'y a pas de raison.
C'est quand même un énorme boulot. C'est ça que je veux dire.
Ouais. Bah, alors ça représente entre le début de John Kerry, lui il n'est pas payé. Je vous rassure.
D'ailleurs ça me rassure parce qu'il n'en a pas besoin.
En gros, on a un peu plus d'une vingtaine de pigistes, photographes, illustrateurs qui ont travaillé sur le numéro.
Ouais.
Et sur l'équipe d'accompagnement et tout, on est une dizaine. C'est principalement indépendant. Hein. Enfin c'est que des indépendants d'ailleurs.
Bon, écoute Mathieu, je te remercie. On te remerciera tous en allant acheter l'iceberg au kiosque ou en le commandant en ligne. La semaine prochaine, en prévision de la 19e édition de la Fête de la Nature, nous recevrons Céline Béliard, une écologue du CNRS, spécialiste des questions des extinctions des espèces et de la quantification de la biodiversité, pour une émission qu'on va appeler Fête ou défaite de la nature. Parce qu'effectivement les menaces montent, mais il nous reste à remercier aujourd'hui aux manettes Renaud, qui a travaillé avec Armand et puis Séphraïm, les deux Lascars là se sont éclipsés, et donc c'est Renaud qui est là jusqu'à la fin et qui va nous envoyer la musique. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine écologique, et puis à la semaine prochaine dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM, bien sûr.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.